Alors cette semaine, je pensais à cette prédication. Avec toi, on avait parlé un petit peu des sujets. Et finalement, hier matin, c'était clair pour moi que le Seigneur me conduisait vers un passage qui est très connu en fait. Je ne sais pas si vous allez apprendre quelque chose ce matin, mais j'ai à cœur de vous partager Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et je les lis avec vous si vous permettez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ensuite, Paul continue dans ce passage avec différents ministères, services que des croyants consacrés peuvent offrir au Seigneur au sein de l'Église. En fait, hier, on a fêté une consécration de bâtiment. Ça me fait penser à Québec, lorsque Louis et moi, on a implanté une église, on a construit un bâtiment, 900 mètres carrés, et j'ai une... Hier, c'est un souvenir qui est revenu à mon esprit. On avait un grand bâtiment avec à peu près à 10 mètres de haut, avec un dôme, avec des grandes vitres, et au moment où on a consacré, prié le bâtiment, il y a eu un rayon de lumière qui est venu sur l'estrade. C'était magnifique. Alors, c'était un petit clin d'œil du Seigneur, je pense. Bien sûr que, je ne sais pas comment le Seigneur a voulu qu'on interprète ça, mais Dieu veut mettre sa lumière sur l'Église et bénir son Église. Alors, un bâtiment, on consacre un bâtiment parce que c'est le fruit d'un travail, comme a dit Thierry, d'engagement de personnes, de dons, etc. Mais n'empêche pas moins que la clé d'une Église, c'est notre consécration personnelle. Parce que, bon, c'est une étape, et gloire à Dieu, nous prions depuis des années pour cette Église, et on croit que Dieu va faire grandir l'Église au travers de vous, n'est-ce pas? Parce que Dieu vous a à cœur, il vous chérit, il veut vous utiliser. J'ai beaucoup aimé la présentation de frère Todd, votre pasteur, au sujet de l'importance d'être une famille, de montrer de l'amour, de s'aimer, et puis de se sentir aimé aussi, etc. Dieu veut faire croître l'Église. Mais vous savez, ça fait plus de 44 ans ou 45 ans maintenant que je suis pasteur, et il y a une clé qui est incontournable pour voir une croissance d'Église. C'est la consécration des enfants de Dieu. On peut consacrer un bâtiment, on peut vouloir servir, mais si dans nos cœurs, on n'est pas consacré à Dieu, avec tout ce que cela signifie, alors on peut, comme on dit chez nous, patiner dans la choucroute, je ne sais pas si vous avez cette expression, hein. On peut essayer de faire toutes sortes d'efforts, hein, pédaler, puis finalement ne pas avancer. Mais Dieu a une bénédiction merveilleuse en réserve pour chacun de vous pour faire grandir l'Église. Mais chacun, on est membre d'un corps où on doit vraiment glorifier le Seigneur et cette vie de Christ. Hier, j'étais bouleversé de voir que mon cousin Germain et son épouse nous écoutaient à un moment donné, avec des yeux grands ouverts. Ils buvaient, ils absorbaient, ils entendaient pour la première fois l'Évangile. Mais ils étaient touchés, on le sait que Dieu les a bénis. Bon, nous on s'est couchés très tard, mais gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur a permis qu'on puisse annoncer l'Évangile. Et c'est la raison d'être de l'Église, proclamer l'Évangile. Mais pour ça, il faut comprendre une certaine vue globale. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un des livres qui m'a passionné dans ma vie. On voit l'apôtre Paul en train de décrire le plan du salut de Dieu. Et dans les premiers chapitres, on voit que l'homme est perdu, le péché s'étend à tous les hommes, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés dans le péché, n'est-ce pas, qui amène la mort physique et spirituelle, mais le don gratuit de Dieu. Puis dans les chapitres 4 et 5, on voit la justification par la foi. Dans les chapitres 6, 7, 8, on voit la sanctification par l'Esprit. Et dans les chapitres 9, 10, 11, on croit, n'est-ce pas, à la restauration spirituelle d'Israël et au retour du Seigneur, n'est-ce pas, etc. Et puis au chapitre 12, Paul dit ceci, « Je vous exhorte donc ». La question de ce matin, c'est, est-ce qu'on va être prêt d'être exhorté par l'apôtre Paul? Alors je dirais même, est-ce qu'on va être prêt à être exhorté par Dieu lui-même? Parce que quand Paul dit « Je vous exhorte », il y a une logique là qui vient du cœur de Dieu. Paul, après avoir décrit le plan du salut de Dieu pour l'homme, l'humanité et Israël, il s'arrête, il fait une pause. Et maintenant, il est en train d'exhorter les gens qui sont en train de lire les 11 premiers chapitres. Et dans cette conjonction, donc, est une clé ici, comme étant donc justifié par la foi. Nous sommes sanctifiés, je vous le lis le passage, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le donc est comme une transition, une inflexion dans les textes. Et puis maintenant, il arrive au chapitre 12, il s'arrête, il pense à tous ses lecteurs, il dit, oui, mais mes lecteurs, ils ont besoin d'exhortation. Et ce matin, on a aussi besoin d'une exhortation. Je vous exhorte. Donc prenons ce matin cette exhortation comme venant du Seigneur. Nous sommes justifiés par la grâce. Amen. On est sanctifiés par la grâce. C'est vraiment une grâce par l'Esprit Saint qui nous a scellés. C'est vraiment un don merveilleux d'être régénéré. Et maintenant, Dieu nous appelle au travers des écrits de Paul à nous consacrer par grâce. La grâce qui nous est manifestée, maintenant, elle doit être active dans nos vies. Il doit y avoir un fruit de la grâce. Paul explique le salut en Jésus-Christ. Et donc, il est logique, il est raisonnable maintenant d'avoir une réaction saine, logique, par rapport au plan de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul veut nous exhorter. Il dit que nous devons offrir un culte raisonnable, un culte d'adoration, comme on fait ce matin, mais ce n'est pas que simple. Que l'Église n'est pas simplement le dimanche matin, c'est en fait tout ministère accompli, tout ce qui concerne à glorifier Dieu. Et dans le grec ici, le culte raisonnable, rassurez-vous, on ne va pas faire beaucoup de grec ce matin, mais le mot grec, c'est logikos, qui a donné le mot français, logique. Il est logique de donner sa vie à Christ qui a tout donné pour nous. Et je vais vous lire deux petites phrases de deux commentateurs différents. Frédéric Godet, un pasteur suisse, dont j'apprécie énormément les commentaires. Ne pas donner, écoutez bien, concentrez-vous un petit peu avec moi, ne pas donner notre tout au Dieu qui a donné son tout en Christ est une erreur de raisonnement. Il est logique de se donner à celui qui a tout donné pour nous, en échange de ce qu'il a fait pour nous. MacArthur a dit, la clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. Vous savez, dans notre Bible, on a souvent à la fin de nos Bibles des cartes géographiques. Et on voit Israël, moi quand j'ai fait l'école biblique, je me souviens, il fallait dessiner au millimètre près toute la carte d'Israël. Et de mémoire, avec un système de grilles, etc., dans la mer de Galilée, la mer Mont. Et la mer de Galilée est proche de l'Hermon, et évidemment, c'est des eaux vives. Et on peut pêcher, et même il y a des pêches miraculeuses, parce qu'il y a des poissons. Mais quand on arrive à la mer Morte, le Jourdain descend de la mer de Galilée à la mer Morte, à moins 400 mètres en dessous de la mer, du niveau de la mer, et je me suis baigné dans la mer Morte, et j'avais vu une photo un jour de quelqu'un qui lisait le journal comme ça. Je me dis, waouh, on peut rester comme ça, presque assis dans l'eau, mais il y a un tel taux de salinité, qu'effectivement j'ai essayé, je me suis mis droit comme ça, on reste droit, parce que le taux de sel est très élevé. D'ailleurs, on conseille à tous les touristes de ne jamais s'asperger. Hein. D'ailleurs, il y a des ophtalmologistes pas loin, parce qu'il y en a quelques-uns qui se plongent, et puis ils ont les yeux brûlés, etc. Mais la leçon ici, c'est que la mer de Galilée est proche des sources vives, et produit quelque chose, n'est-ce pas, avec le Jourdain vers la mer Morte. Mais la mer Morte est vraiment morte, et pourtant, au fond de la mer Morte, il y a, paraît-il, des milliards de dollars, on dit, enfin, enfouis, qui ne sont jamais exploités. Et là, nous devons peut-être prendre cette image dans ce sens-là, c'est une illustration que j'ai entendue une fois. La mère de Galilée, elle reçoit, puis elle donne. Puis la mère morte, elle reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle ne donne jamais. Et vous savez, c'est dangereux dans une église d'être toujours celui qui veut recevoir. Comme dit MacArthur ici, la clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. Et la meilleure façon de faire vivre l'Église, c'est de se donner au Seigneur pour donner aux autres, d'être un oasis de vie. Et le dimanche matin, on a plaisir. C'est comme si on peut mettre son cœur en dessous du cœur d'une personne et recevoir l'eau vive du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. En fait, Dieu cherche à ce qu'on soit comme la mère de Galilée, qui donne, qui est riche, mais qui peut donner. Et c'est triste quand un chrétien, qui pourtant a le salut, la vie éternelle, est en marche pour le ciel, perd cette vision du salut, de la croix de Jésus, et oublie ce que Jésus a fait pour lui et ne prêche plus l'évangile et ne se consacre plus pourtant à celui qui a tout donné. La Bible dit, vous avez été racheté à un grand prix, glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Une façon de se donner, c'est de réaliser que oui, nous étions esclaves. Jésus est passé au marché de l'esclavage, où nous étions liés au péché, liés à la puissance du malin. Et Jésus nous a délivrés, nous a rachetés par son sang, il a payé le prix afin qu'on soyons libres. Et la Bible dit qu'on ne s'appartient plus. Mon corps, mon âme et mon esprit ne m'appartiennent plus. Aussi, Jésus doit avoir toute la place. Il est Seigneur. On l'appelle Sauveur, mais Seigneur, c'est indissociable. Si on a un Sauveur, il est Seigneur. Et quelqu'un a dit qu'on devrait donner à Jésus-Christ la même place que celle qu'il a dans l'univers. Un des passages favoris que j'ai, moi, c'est en Colossiens, en chapitre 2, on voit que Jésus-Christ est l'agent de la création, il est le but de la création, ces milliards d'étoiles, ces milliards de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles, il est aussi celui qui maintient le monde. Il est l'agent de la création, il est le but de la création, il maintient le monde. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, vous vous déplacez dans l'espace à plus de 50 mètres par seconde, attachez vos ceintures, hein? C'est incroyable. Et on oublie cette vision de la grandeur de Dieu. Ma femme et moi, on est allés à la Cité de l'Espace. D'ailleurs, je vous invite à nous visiter à Toulouse, c'est une belle ville, hein? Il y a la Cité de l'Espace où il y a un film qui montre le berceau de la naissance des étoiles. Et il y a un endroit où on montre le cimetière des étoiles. C'est difficile quand on est assis, qu'on voit cela, n'est-ce pas? Et ne pas glorifier Dieu, ne pas se sentir écrasé par la grandeur de Dieu. Alors, si Dieu est si puissant, si grand, qui sommes-nous pour lui résister, bien-aimé? Et ne pas donner tout notre être à celui qui a tout donné et qui en plus est maître de l'univers. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc c'est vrai, donner son corps, en Corinthiens, il est question de péchés comme la gloutonnerie, la paresse, la convoitise sexuelle, la débauche, la fornication, l'adultère. Il y a différentes façons de donner tout son être. Et Jésus, en écrivant ce message, quand on dit qu'on donne son corps, ça m'a fait penser à Hébreux chapitre 10. Bon, je ne peux pas lire tous les versets, question de temps. Mais il est écrit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Tout cela était vain dans l'Ancien Testament à un moment donné. Ça préfigurait Jésus-Christ, mais le salut parfait devait venir en Jésus-Christ. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rôle du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté, pour avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et ça fait beaucoup réfléchir, comme Jésus au jardin de Gethsémané, qui a dit toutefois, non pas ma volonté mais la tienne. Et combien de fois on a besoin de reconsacrer sa volonté au Seigneur, de vraiment se soumettre afin que lui agisse au travers de nous selon ses plans. Et c'est vrai que dans notre orgueil, notre désir de vouloir même vivre la vie chrétienne, on empêche peut-être Christ de vivre sa vie en nous parce qu'on essaye par nous-mêmes. Et pourtant il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans quelle mesure notre volonté bien-aimée est soumise à notre Seigneur Jésus-Christ? Bon, une petite anecdote, si vous me permettez. Quand j'étais plus jeune, jeune croyant, dans ma chambre, un jour, je priais Dieu, je cherchais la volonté de Dieu. Et après avoir témoigné à quelqu'un, je ne sais pas, j'avais un besoin de me mettre dans ma chambre et de prier. Et quelque part, j'ai eu comme une vision de Jésus-Christ à la croix. Et comme si le Seigneur me disait, voilà, Michel, ce que j'ai fait pour toi, regarde mes clous dans mes mains, mes clous dans mes pieds, ma couronne d'épines, ce trou dans mon côté, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? Et ça m'a bouleversé. Donc, vous savez, peut-être vous connaissez mon histoire, mais le Seigneur m'a appelé et j'ai dû me dépouiller. Il m'a dépouillé plutôt, parce que moi je résistais. On ne donne pas sa vie facilement. Pourtant, Dieu dit dans les proverbes à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et reconnaissons que parfois, nous chantons, Jésus prend tout, on chante beaucoup de choses, mais est-ce qu'on se donne vraiment? Vous savez, parfois, on garde les choses. Un jour, j'étais en face d'un ascenseur, il y avait une vieille dame avec une valise qu'elle portait. Pourtant, c'était lourd, je me dis, bon, elle peut poser la valise, mais non. Bon, elle attendait, l'ascenseur arrive, elle rentre dans l'ascenseur, et là, elle garde la valise comme ça. Je me dis, mais cette dame, elle a une valise lourde, pourquoi elle ne la pose pas? Et vous savez, c'est ce qu'on fait au Seigneur parfois. On dit, on vient à la croix, on dit, Seigneur, prends tout, Seigneur. Puis on repart exactement comme on est venu, on garde tout. Et il faut faire attention, lorsqu'on se donne à Jésus, de lui laisser vraiment la place. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui même, chacun de nous, quelque part, on a besoin de se consacrer à Dieu, on dit, Seigneur, prends ma vie, il y a quelque chose dans ma vie, faites-le aujourd'hui même, mais donnez-lui vraiment ça. Mais vous savez, Dieu entend la prière. Il va vous dire exactement quoi abandonner. Un jour, il y a un missionnaire, Charles Studd, qui parlait à un jeune homme qui cherchait la plénitude du Saint-Esprit. Il dit, voilà, ta vie, c'est un peu comme un compartiment avec des commodes, et chaque commode a des clés, et a une clé, et puis tu as le trousseau du clé, des clés. Mais est-ce que tu as tout donné au Seigneur, tous les tiroirs? Parce que vous savez, dans nos vies, on a des compartiments. Ah non, ça, bon, le Seigneur est au courant, là, il m'a changé, mais là, c'est entre moi et moi, ou quelqu'un de... On ne dit pas vraiment tout au Seigneur. Vous ne croyez pas que le Seigneur connaît tout? Il connaît nos déclarations d'impôts à la ligne près. Hein. On n'a rien à lui cacher, vous savez. C'est-à-dire que dans le tiroir où on pense qu'on peut cacher quelque chose, mais le Seigneur, lui, il voit tout, il entend tout, il est omniscient. Et pourtant, on prétend encore dans nos vies avoir des petits secrets. Par orgueil, par honte, par amour propre, on ne confesse pas vraiment les choses toujours intimes, jusqu'aux fibres les plus intimes de notre être. Alors que Jésus, lui, il veut vraiment nous apprendre à nous donner et sans réserve. Parce qu'en fait, c'est une des choses, comme a dit Todd hier, si on pense en Dieu d'amour, alors il nous voit d'une certaine façon. Et donc on peut lui faire confiance. Une des plus grandes ruses du diable, je pense, dans la vie du croyant, c'est nous faire croire que Dieu ne nous aime plus. Et quand on croit à Jésus qui est mort à la croix, il nous a aimés le jour où il est mort à la croix, mais il continue à nous aimer parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à écouter l'exhortation de Paul? Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Le mot exhorter, j'aime bien faire parfois l'étude des mots et puis voir comment ils sont utilisés dans le Nouveau Testament. C'est un mot grec. Je vous dis le mot grec parce que c'est proche d'un autre mot grec, vous allez comprendre. Parakaleo, ça veut dire appeler au secours à côté de soi. Autrement dit, c'est comme si Dieu plaide quand il nous exhorte à côté de nous. Et quand le mot exhorter est employé dans le Nouveau Testament, pour trois raisons. Un, instruire. C'est essentiellement le mot qui est utilisé, le sens du mot, l'application du mot. Encourager et réprimander. Alors, ce matin, quand Paul dit « je vous exhorte », on peut soit être instruit, et on a tous besoin d'instruction, on peut être encouragé, on a tous besoin d'encourager, et peut-être aussi, on a besoin d'être réprimandé. Et d'ailleurs, la Bible dit « exhortez-vous les uns les autres », et voilà. Et Jésus a dit « moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, le paraclète ». C'est le même mot d'origine que celui que j'ai dit tout à l'heure, parakaelo, appeler, plaider à côté. C'est le rôle du Saint-Esprit, mais est-ce qu'on lui laisse la place dans nos vies, justement, pour être exhorté? On peut être exhorté par les frères et sœurs. On est exhorté en lisant la parole de Dieu, liée à l'action du Saint-Esprit qui est en nous. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, écoutons l'exhortation de Paul et mettons les choses en pratique. Et Paul dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, c'est ce que le croyant a ressenti un jour lorsqu'il s'est converti. Il a compris que Dieu l'aimait. Il a compris que Dieu lui pardonnait ses péchés. Il a compris qu'il a évité l'enfer. Et donc, quelque part, les compassions de Dieu, c'est celles que le croyant ressent en regardant toutes les grâces que Dieu lui a faites, lui a données. Et je pense que si on prenait le temps d'écrire sur un carnet tout ce que Dieu a fait dans nos vies, on serait vraiment encouragé. Je me souviens, un jeune croyant, il y avait un frère bien-aimé qui m'a exhorté, encouragé, à écrire sur un carnet toutes les bénédictions de Dieu. Et tu vois, quand les jours vont mal, ou que tu passes par des tunnels, des épreuves, regarde ce cahier, puis lis tout ce que Dieu a fait dans ta vie, et comme ça, tu vas être encouragé. C'est une bonne façon d'exhorter Dieu, de le louer, et de regarder à sa miséricorde, parce qu'on est vraiment l'objet de sa miséricorde. Vous savez pourquoi on est l'objet de sa miséricorde? Parce qu'on en a vraiment besoin. Hein, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aime beaucoup ce verset en 2 Corinthiens qui dit, béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le jour où on découvre la miséricorde de Dieu, on est touché par Dieu. Je ne sais pas vous, ce qui vous touche le plus dans votre vie. Mais il y a une chose dans mon cœur qui, moi, me bouleverse, qui me fait fondre comme un beurre au soleil, c'est quand tout d'un coup, Dieu dit qu'il m'aime et que je ressens son amour. Là, je peux vous dire que, alors, reconnaissons parfois qu'on est châtié par Dieu. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Mais on est châtié par Dieu. Et puis, il y a des fois des grâces tout à fait spéciales qu'il nous donne. Mais quand Dieu nous visite par son bon esprit et nous fait toucher dans un cœur profond, qui nous aime, ça on est comme sans force, comme sans résistance, tellement c'est beau. Alors on va parler d'offrir son corps, c'est l'exhortation de Paul. Qu'est-ce que ça veut dire d'offrir son corps comme des victimes consacrées, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, ce qui sera de votre part. Donc votre part, suite au salut de Dieu, c'est de vous consacrer. Et ensuite, à partir du verset 3, Paul décrit des services qu'on peut donner à l'Église. Mais touché par le salut, la grâce du salut, on se consacre par grâce pour ensuite servir par grâce le Seigneur Jésus au sein de l'Église. Vous-même, comme des pierres vivantes, dit Pierre, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire offrir? En fait, dans l'Ancien Testament, offrir un sacrifice, c'était d'amener un sacrifice d'abord d'expiation, parce qu'on est pécheur. Le mot expier, dans l'hébreu, c'est kafar, c'est couvrir, comme Noé qui couvrait l'arche, n'est-ce pas, avec un enduit de poids pour la rendre étanche. C'est un acte de Dieu. Moi, en tant qu'ancien catholique, le jour où j'ai compris par la Bible ce que ça voulait dire expier, expiation, mais ça a changé ma vie et ma façon de voir Dieu et ma relation avec Dieu. C'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui couvre nos péchés. On n'a pas à souffrir pour expier nos péchés. Ça, c'est une fausse théologie. C'est Jésus qui a porté nos péchés à la croix, qui couvre nos péchés par son sang. C'est magnifique. Et donc, l'expiation existait déjà dans l'Ancien Testament. On a mené un sacrifice d'expiation. Mais ensuite, le Juif a mené un sacrifice de consécration. Le sacrifice d'expiation était fait d'une certaine manière, même le sacrificateur pouvait en prendre une partie, mais le sacrifice de consécration, et Paul a cela en tête lorsqu'il écrit cela, c'était un sacrifice où tout devait être consumé, tout devait être brûlé, tout le sacrifice devait être entièrement consumé. Et reconnaissant que dans nos vies, on a peur de se donner entièrement. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit consumé dans un bon sens, n'est-ce pas? Brûlé pour lui, si vous voulez, on va dire comme ça, pour que ce qui n'est pas agréable à Dieu dans nos vies disparaisse et qu'on l'offre à Dieu afin que lui transforme nos cœurs afin de vivre pour lui. Alors, il y a une façon de voir la consécration du corps et je vous le donne comme j'ai compris moi dans ce texte. Il y a certainement d'autres façons à faire. Tout d'abord, alors, consacrer son corps, c'est évidemment tout l'être entier, corps, âme, esprit. Mais on va prendre la métaphore que Paul emploie ici au niveau du corps, sachant que notre corps ne nous appartient plus, devenu le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on doit consacrer ses yeux. C'est-à-dire que Dieu veut que l'on regarde ce que Dieu veut, ce que l'on voit. Et là, on a toute une sanctification à faire vis-à-vis de nos yeux et dans la façon dont on regarde. Les yeux, n'est-ce pas, c'est très précieux, mais Dieu, un jour, va nous tenir rigueur et compte de la façon avec laquelle on a utilisé nos yeux. Et je pense à ce verset, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, nous serons du et de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé et l'homonie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Remarquons, frères et sœurs, quand nous détournons les yeux de Jésus, on peut le détourner sur soi. On a trois ennemis, vous le savez, dans la vie chrétienne. On a la chair, le diable, la chair et le monde. Et si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, rapidement, un de ces ennemis-là veut prendre autorité sur nos vies. Une autre façon de voir, nos oreilles. J'espère que vous entendez bien. Mais moi, j'ai un papa qui vient d'avoir 100 ans. Et il entend presque plus rien, il voit presque plus rien, malheureusement. Et donc, entendre, c'est précieux. Est-ce qu'on entend vraiment ce que Jésus veut que l'on entende? Ça veut dire, par exemple, dans les conversations. Est-ce qu'on est complice de certaines conversations où Jésus peut-être se retirerait des conversations? Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Est-ce que nos oreilles entendent vraiment ce que Jésus veut que l'on entende? Parlons de la langue. Est-ce qu'on dit vraiment ce que Jésus veut que l'on dise? Et là, je crois que moi, j'ai beaucoup à apprendre. Je suis un grand bavard et j'ai beaucoup à apprendre. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Vous savez, il y a un péché que Dieu, que Jacques, notamment, dénonce, même parmi les croyants. Deux péchés, en fait. La médisance et la calomnie. La calomnie, c'est quelque chose qu'on invente pour faire du mal à quelqu'un. Mais la médisance, c'est de dire une vérité sur quelqu'un, mais dans le but de nuire à la personne. Et là, je crois que nous avons besoin d'apprendre à garder notre langue. Sanctifions nos yeux, nos oreilles, mais aussi notre langue, et confessons à Dieu le nom de Jésus-Christ, confessons le nom de Jésus, confessez de vos lèvres, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, nous dit l'auteur aux Hébreux. Son cœur, comme je vous ai déjà dit dans les Proverbes, c'est Dieu qui parle à Salomon, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Approchez-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons veiller sur nos cœurs, nos sentiments, nos émotions. Satan, vous savez, peut jouer là-dessus. Quelqu'un a dit, le cœur, c'est comme un violon d'or sur lequel Dieu peut jouer, mais aussi Satan. On doit faire attention avec nos cœurs et nos pensées, la façon avec laquelle nos sentiments s'expriment et les confesser devant Dieu. Ses genoux. Je crois que c'est l'apôtre, je ne sais plus si c'est Jacques ou Jean, j'ai oublié là. Mais j'ai oublié. Donc je vais dire que c'est un des deux, excusez-moi, je ne sais plus, j'ai lu ça quelque part, mais j'ai oublié. On dit qu'à la fin de sa vie, ses genoux étaient devenus durs comme des cailloux, tellement il avait prié à genoux et supplié Dieu. L'Église s'élève quand elle s'abaisse. L'Église est élevée quand on se met à genoux. Je me souviens, jeune croyant dans l'Église où j'étais là pour jeune converti, on avait une réunion de prière, tout le monde se mettait à genoux et priait. Et on priait une heure et demie. Je ne vois plus trop ça dans nos églises aujourd'hui. Et ça fait mal au cœur de voir que l'esprit de prière n'existe plus trop dans les églises. On parle de jeûne, d'une semaine de jeûne et prière. Ça devient une montagne, une réunion de prière. Mais comment ça se fait que des gens font toutes sortes de choses dans la vie? Et puis quand il y a une prière, ils ont toutes sortes de... Alors, il peut avoir de bonnes excuses, il y a la famille, mais quand même, comment ça se fait que nos réunions de prière, là, on est obligé de tirer, de dire, venez à la... Mais on devrait se précipiter à la réunion de prière. En Afrique, j'avais lu une petite anecdote d'un pasteur qui est allé voir sa brebis et dire, mais écoute, j'ai remarqué que ton chemin depuis chez toi jusqu'à l'église, l'herbe a pas mal repoussé. Parce que tant qu'il venait à l'église, n'est-ce pas, le chemin était là. Mais ton herbe a repoussé, il faudrait que tu reviennes à l'église plus souvent. Voilà. Et bon, mais je ne sais pas. Vous savez, Théodore Monod, qui était un grand prédicateur, il a écrit un livre qui s'appelle Les Adieux. À la fin de sa vie, il allait mourir. Il a dit qu'un de ses grands regrets, il prêchait 3-4 fois par jour, dans des temps de réveil en France. Hein. Il disait, un des plus grands regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir passé assez de temps dans la prière. Ah. Priez pour moi et ma femme. J'espère que quand on aura moins de surcharge, on pourra vraiment avoir à nouveau ce ministère de prière. Louis, c'est un ministère de prière qui s'appelle SOS Prière sur un site où beaucoup de gens écrivent, je crois, 120 000 personnes depuis 10 ans. Et c'est vraiment un besoin d'apprendre à prier, de passer du temps dans la prière. C'est même, est-ce qu'on fait tout ce que Dieu veut que l'on fasse? Est-ce qu'on se consacre vraiment à tel point qu'on se soumet à la volonté de Dieu pour toucher, faire ce que Dieu veut que l'on fasse? On a une activité professionnelle, une activité dans l'Église. Alors c'est une façon métaphorique de parler, mais est-ce que je fais de mes mains ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que mes pieds sont consacrés à Dieu? Est-ce que je vais là où Jésus est? Est-ce qu'il me suit? Ou est-ce que Jésus m'abandonne parce que je vais dans une direction qui ne lui plaît pas, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment mes pieds sont consacrés? Et en Éphésiens, vous connaissez le passage qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Paul nous exhorte, vous avez compris par cette métaphore, à donner tout notre être. Et l'exemple parfait, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui lui s'est donné entièrement. Une des choses qui m'a le plus bouleversé en étudiant l'évangile de Jean, dans notre église, on a étudié l'évangile de Jean, dans les groupes de maison, 3 ans, verset par verset. Le but, c'était d'apprendre vraiment à bien interpréter le passage, à comprendre la profondeur du texte. Mais une des choses pour moi qui m'a vraiment interpellé, c'est la dépendance de Jésus-Christ envers Dieu le Père. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père. Et je ne dis que ce que Dieu veut le Père que je dis, je ne fais que ce que Dieu le Père veut que je fasse, enfin je dis dans mes mots. Mais c'était incroyable. Si vous lisez tout l'évangile de Jean et vous notez toutes les fois où Jésus déclare sa dépendance avec Dieu le Père, alors combien plus forte raison nous devrions-nous dépendre, êtres humains que nous sommes, pécheurs, voués à la tentation et aux attaques du diable, à combien plus forte raison devrions-nous nous donner sans réserve à Jésus-Christ? Se donner à Dieu, c'est prêt à mourir à soi-même. Moi, jeune, j'ai essayé de planter un jour un avocat, et comme j'ai pas la main verte d'ailleurs encore, je suis pas doué pour planter tout ça, et donc j'étais tout jeune, j'ai planté un avocat, et j'attendais que ça pousse, et un miracle s'est fait. Il y avait une petite tige qui a commencé à pousser. J'ai dit, ah, c'est bien. Mais je trouvais que ce n'était pas assez rapide. Alors j'ai pris la tige, j'étais enfant, hein, et j'ai tiré, j'ai dit, je vais aider un petit peu là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout détruit. Mais vous savez, Dieu est patient pour faire pousser les choses, mais ça vient d'une graine qui doit mourir. C'est dans la mesure où la graine, sous l'effet de la chaleur et l'humidité dans la terre, meurt, se décompose, que la vie vient. La vie vient de la mort. Jésus-Christ a donné sa vie, il est mort à la croix pour nous donner sa vie. Dans la mesure où je meurs à moi-même, la vie de Christ va abonder. Et le défi de l'exhortation de Paul, c'est d'apprendre à mourir à soi-même. Hein. C'est écrit en Romains chapitre 6, de se considérer comme mort. Et Paul dit à un moment donné en Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Moi, ça me bouleverse. Hein. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la beauté du sacrifice. Le sacrifice qui doit être vivant, parce que quelqu'un qui est mort, qui ne connaît pas Christ, il ne peut pas se donner à Christ pour le service. Parfois, on dit à des gens de servir, mais ils n'ont pas la vie. Ils ne peuvent pas servir tant qu'ils n'ont pas la vie. Un sacrifice saint, parce qu'on est mis à part pour Dieu. Et on est justifié par la grâce, mais après on est sanctifié et on continue à être purifié, agréable, parce qu'évidemment, quand on se donne à Dieu, ça lui est agréable. Et pour terminer, Paul dit qu'il ne faut pas, et là je vais écourter mon message, ne pas se conformer au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, ici, c'est un mot grec qui a donné le mot français, métamorphoser. Dieu veut nous transformer, nous renouveler dans notre intelligence. Le monde, quelqu'un a dit, c'est la somme d'une philosophie de vie humaine et démoniaque. Et donc on doit apprendre à résister au monde et lui donner entièrement notre vie. Oui, le monde à rejeter, c'est le siècle présent, les principes du siècle présent. Et le nouveau monde à suivre, c'est discerner la volonté de Dieu et ne pas se mettre sous un joug étranger, mais d'apprendre à vivre pour Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous recevrez, mais en même temps, il dit, Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et tout simplement dans le but de satisfaire vos convoitises. Être transformé dans l'intelligence, c'est d'avoir une nouvelle pensée. Dans le grec, métanoïa, c'est la repentance, c'est de voir Dieu, les choses comme Dieu les voit. C'est avoir un changement de pensée, un changement de compréhension et de voir les choses comme Dieu les voit. Et il faut reconnaître que nous avons encore besoin les uns les autres d'être transformés, d'être renouvelés et de marquer notre monde. Vous êtes dans un bâtiment, vous devez avoir un thermostat, non ? Pour fixer la température, c'est ça ? Et puis chez vous, vous avez certainement des thermomètres pour voir la température quand il fait, allez, 30, c'est le temps de fermer les contrevents, de mettre la clim si vous l'avez. Dieu nous appelle à être des thermostats et pas des thermomètres. Le thermomètre, il subit l'ambiance. Mais un thermostat, il crée l'ambiance. Et le chrétien doit faire la différence dans ce monde. Je me souviens d'un diacre quand j'étais pasteur à Québec, un homme vraiment consacré de qui j'ai beaucoup appris. Un ouvrier dans une usine, une grande usine de pâte à papier au Québec. Et un jour, tous les jours, il lisait la Bible dans la salle des ouvriers où on pouvait casser la croûte. C'est comme ça que c'était là. Et un jour, il arrive et il y avait plein de photos pornographiques sur les murs. C'est là où il lisait la Bible. C'était un autre ouvrier qui avait mis toutes sortes de photos parce qu'il trouvait que c'était ça qu'il fallait. Et mon ami s'est vraiment énervé. Il a tout arraché. Il est même allé voir l'autre. Il dit, non, l'autre s'est énervé. Il dit, quoi, tu veux te battre? Il n'a pas accepté. Je dis cet exemple parce que c'est tellement subtil comment le diable veut entrouvrir, veut passer par des portes que nous croyons nous laissant entrouvertes. On doit vraiment fermer la porte au diable et pour cela ne pas faire de compromis vis-à-vis du péché. On peut se consacrer, mais une façon aussi de se consacrer, on l'a vu, c'est de renoncer à soi-même, mais aussi de confesser son péché, l'abandonner et de demander pardon au Seigneur. Et ce qui est merveilleux, si nous confessons nos péchés, que dit la Bible ? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pas de compromis vis-à-vis du péché, pas de compromis vis-à-vis du monde, parce que le monde est puissant, et le diable aussi, pour essayer de nous influencer dans un mauvais sens. Alors soyons des thermostats et pas des thermomètres. Prions. Notre Père céleste, merci de ta présence, merci de ta bonté, merci de nous aider à faire ta volonté. Moi-même, je te confesse, Seigneur, je renouvelle mon cœur, ma vie devant toi, afin de t'être agréable, afin de me donner entièrement à toi, pour que ton nom soit glorifié et sanctifié. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette assemblée, et nous te demandons, Seigneur, de la sanctifier, d'aider chacun ici à se donner entièrement, afin de te glorifier. Comme disait William Booth, fondateur de l'armée du salut, nous n'avons qu'une vie à vivre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre ? Seigneur, nous voulons la vivre pour toi et nous te le consacrons ce matin. Je vous invite pendant un temps de silence, il n'est pas prévu du tout cela, hein, mais peut-être, comme vous avez eu un moment de silence avant le culte, moi j'ai bien apprécié cela, peut-être juste quelques secondes dans votre cœur. Demandez à Dieu peut-être le tiroir de commode que vous n'avez pas encore donné à Dieu ou quelque chose dans votre cœur avec lequel vous luttez. Trouver quelqu'un avec qui en parler, mais ou un domaine dans votre temps, dans votre argent, dans vos loisirs, quelque chose, un domaine dans lequel vous devez vous donner plus et donner tout simplement au Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et c'est le moment. Vous avez entendu ce message ? Pensez-y maintenant, à l'instant. Pensez-y aujourd'hui, dans la semaine. Et que Dieu vous fasse la grâce, nous fasse la grâce à chacun. De l'aimer, le chérir comme lui nous a aimés. Amen. Merci.